Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau portrait qui vient compléter notre galerie des personnages du Premier Empire. Aujourd'hui, en effet, nous nous intéressons au frère aîné de Napoléon, Joseph Bonaparte. Comme nous l'avons déjà vu avec Jérôme, l'histoire a porté un jugement sévère sur les frères de l'empereur, considérés comme des ingrats dont l'inconséquence politique a accéléré la chute de l'Empire. À Joseph sont ainsi associés la faiblesse, la paresse, le manque de courage et de détermination. Or, avec notre invité d'aujourd'hui, Vincent Aiguélé, nous allons découvrir un personnage bien plus complexe et intéressant que l'histoire a laissé supposer, un Joseph pas si docile ni si gentil, mais plutôt charmeur, cultivé, imprégné des tragédies cornéliennes et surtout un Joseph ambitieux qui a le goût du pouvoir. Vincent Aiguélé, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureuse de vous accueillir au micro de Canal Académie. Vous êtes chartiste. Dans le cadre de votre thèse soutenue en 2006, vous vous êtes penché sur la correspondance entre Joseph et Napoléon et vous venez donc de publier aux éditions Talendier « Napoléon et Joseph Bonaparte, le pouvoir et l'ambition ». Je dirais qu'il s'agit en quelque sorte d'une étude comparée des parcours de Napoléon et de Joseph à partir de leur correspondance. Et je précise à nos auditeurs qu'on y découvre énormément d'informations inédites, et en particulier, donc bien sûr, sur Joseph. Et d'ailleurs, avant de plonger dans l'histoire de Joseph, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de vos sources ?
Merci de m'avoir invité pour parler de ce personnage passionnant qu'est Joseph Bonaparte, et comme vous l'aviez dit, parfois un peu maltraité par l'histoire. Donc, sans me faire l'avocat de Joseph, parce que j'ai essayé de conserver une certaine objectivité sur la question, on peut dire que les sources sur le personnage sont très diverses, très variées et dans un sens compliqué à réunir. C'est un grand puzzle qu'il a laissé à cause de l'histoire compliquée qu'il a connue. Il faut savoir qu'en juin 1813, il a perdu la quasi-totalité de ses papiers sur le champ de bataille de Vitoria en Espagne et que pendant des décennies, ses archives ont été fermées aux historiens par décision du nouveau propriétaire, le duc de Wellington et sa descendance. Donc ce n'est qu'en 1979-80 que, suite à l'intervention de Jean Favier auprès de la présidence de la République, que les archives de Joseph Bonaparte ont réintégré les archives nationales en France et que les historiens ont pu s'y intéresser. Alors évidemment, elles ont remis énormément d'éléments en question sur la personnalité et le parcours politique de Joseph.
Alors c'est ce que nous allons voir. Je rappelle donc à nos auditeurs que Joseph est l'aîné. Il naît en 1768, un an avant Napoléon. Et chose surprenante, alors qu'il est d'usage dans les familles nobles de destiner l'aîné au métier des armes et le cadet à l'état ecclésiastique, là, c'est l'inverse. C'est Joseph qui est dirigé vers la prêtrise. Est-ce qu'on ne peut pas se demander si Napoléon n'a pas, dès le départ, menacé la position de son frère ?
Oui, autant que Joseph a menacé la position de Napoléon dans la mesure de ses moyens, puisque l'on se rend compte que dès les années 1780, la prêtrise ne l'intéresse pas et qu'il va tout faire pour essayer d'entraver les projets familiaux. Et il va y réussir à sa manière en dénichant un protecteur en la personne du prince de Condé, ce qui n'est pas rien pour l'époque, et en lui demandant une place dans la maison du roi. Place qui lui sera promise, mais finalement, le père de Joseph et Napoléon, Charles, ne désirant pas plusieurs militaires dans la famille, va ramener son fils en Corse et le destiner à une carrière plus classique, celle du droit.
Et Napoléon ne se laissera pas faire après Joseph non plus, puisqu'on le sent s'opposer à la volonté de son aîné.
Ah oui, sans aucun doute. Dans ce sens, il va écrire à Joseph pour lui dire que c'est très bien de penser à la carrière des armes, et dans un autre, il va écrire à sa famille pour lui dire que c'est la pire des choses à faire et qu'il faut absolument que Joseph revienne sur sa décision. Il pense déjà en termes d'intérêt et en termes de bénéfices, puisque si tout avait été conduit de la manière dont Napoléon et Charles l'avaient souhaité, Joseph aurait dû devenir évêque.
Alors nous allons passer très rapidement sur les années de formation de Joseph. Donc comme vous venez de le dire, il refuse d'endosser l'état religieux et suit finalement des études de droit en Italie. Parallèlement, donc, la Révolution a éclaté en France. L'ascension de Napoléon va être rapide et très tôt, on voit Joseph comprendre l'intérêt qu'il a à en tirer.
Alors, on peut amener une nuance, à savoir qu'au tout début de la Révolution, les deux frères sont... d'une certaine manière sur un pied d'égalité, puisque Napoléon est encore un petit officier d'artillerie qui n'a pas grande envergure, qui est souvent absent, pour des raisons familiales d'ailleurs, tandis que Joseph, lui, est déjà avocat et va bientôt briguer un siège de député. Donc là, on voit que les rôles sont relativement bien équilibrés et à Napoléon, la chance de gagner des galons supplémentaires, à Joseph de progresser dans le civil. Et il faut dire que ce n'est qu'à partir de 1794, la chance de Napoléon d'obtenir la conduite du siège de Toulon, et puis bientôt la conduite de l'armée d'Italie, qui va un peu déséquilibrer cette répartition des rôles, et Joseph va devoir s'y conformer et suivre désormais la voie que leur frère trace. Mais il n'est pas le seul, toute la famille est concernée, et dans un sens, les Bonaparte font bloc autour de Napoléon. Ils auraient pu faire bloc autour de Joseph si celui-ci avait eu plus de chance aux élections, naturellement.
D'ailleurs, on voit les deux frères, Joseph et Lucien, avoir une part très importante finalement dans l'ascension de Napoléon, en particulier lors du 18 Brumaire.
Oui, alors là on a sauté quelques années, on se retrouve lors du retour d'Égypte et avec une partie, ce n'est pas prouvé entièrement mais on peut inférer, avec une partie de l'argent récupéré en Italie lors de la campagne, Joseph a acquis une somptueuse propriété dans l'Oise, le château de Mortefontaine. Et c'est au château de Mortefontaine, chez Joseph, que se réunissent plusieurs fois les conjurés, que l'on dessine notamment de la manière dont on va tenir à l'écart l'autre beau-frère Bernadotte, qui a épousé la sœur de la femme de Joseph, et également sur les modalités du coup d'État de Brumaire. Chose, un tout petit détail, mais qui est finalement très intéressant, c'est Joseph qui va convoquer les députés qui s'étaient dispersés à l'issue du coup d'État pour leur faire valider le coup de force et lui donner toute l'apparence de la légalité. Lucien ayant conduit les débats, Joseph ayant eu cette présence d'esprit de faire revenir ce qui pouvait être réuni, tous deux vont penser que le pouvoir doit être partagé et que Napoléon n'est pas seul pour la conduite des affaires du pays. Une fois encore, les intérêts de la famille Bonaparte se mélangent à ceux du pays en entier. Ce qui était aussi intéressant à mettre en lumière dans cette étude croisée, c'était finalement aussi le patriotisme des frères Bonaparte et leur attachement à la cause française depuis le début de la Révolution.
Alors, nous allons aller un peu vite dans le temps, j'en suis désolée, mais très vite, donc on va passer au consulat. On voit quand même Napoléon respecter son engagement vis-à-vis de Joseph, puisqu'il l'associe aux affaires et lui confie même des missions particulièrement délicates, des missions diplomatiques, lors de la négociation de la paix de Lunéville, puis surtout du Concordat. Et pourquoi confie-t-il ces missions à Joseph ? Et Joseph, il reconnaît donc certaines capacités à son frère.
Alors, en fait, il faut remonter, je pense, jusqu'aux années 1795 pour voir que Napoléon considère déjà que Joseph peut être le diplomate de la famille. Peut-être estime-t-il qu'il n'a pas toutes les qualités pour mener une négociation sur le long terme. À Lunéville, le Concordat, il faut rajouter deux autres négociations d'importance, la paix avec les États-Unis et surtout la paix avec l'Angleterre, la paix d'Amiens. Et Joseph va effectivement montrer quelques qualités. Alors, il est très dirigé dans la négociation, dans la façon dont les débats sont menés avec les puissances belligérantes. Mais il va plus tard estimer que là aussi, il fait montre d'une indépendance d'esprit. Et Napoléon, dans un premier temps, va reconnaître cette indépendance d'esprit, notamment lorsque Joseph lui fait des propositions pour infléchir les négociations dans tel ou tel sens. Ce sont à chaque fois évidemment des points de détail, il ne s'agit pas de transiger sur le fond complet, mais le point de vue de Joseph se révèle déterminant. Et dans un sens, Napoléon a mis un point d'honneur à présenter aux négociations, une sorte de Napoléon bis, très policé, très civil, un Napoléon en habit de diplomate et non pas en habit militaire. Et Joseph accepte la tâche tout en refusant le parallèle un peu simpliste de son frère.
Même s'il cherchera toujours à garder cette image du Napoléon, un peu de la version un peu libérale du Napoléon, quelle est la position en fait de Joseph par rapport à Napoléon ? Et revendique-t-il la même inspiration politique ?
Alors là, en fait, on est un peu dans le cœur du problème, puisque c'est la question principale. C'était aussi un peu la raison du sous-titre « Le pouvoir et l'ambition ». C'est que Joseph et Napoléon ne s'accordent pas sur un grand nombre de points de vue, et la politique en fait évidemment partie, et notamment l'idéologie. Qu'est-ce que doit être la France post-révolutionnaire, comment la diriger, avec qui. Et là, on voit une sorte de jeu de rôle s'effectuer, jeu de rôle qui était déjà en place dès la Révolution, puisque Joseph, qui est malgré tout très républicain, peut-être plus républicain que son frère sur certains égards, va être chargé d'une mission un peu officieuse auprès des royalistes modérés. Donc on va voir rentrer dans son orbite, dans son réseau, toute une foule de personnes qui de toute façon étaient hostiles à Napoléon et qui ne le seront pas envers Joseph. Un des cas extrêmes, je dirais, c'est peut-être le marquis de Clermont-Tonnerre, qui est une des plus vieilles familles de France, et qui se rallie à Joseph sans jamais cacher son hostilité envers la personne du premier consul, puis de l'empereur. Et donc, c'est à Mortefontaine, toujours, que vont se constituer ces réseaux, un peu sur l'aile droite, je dirais, de l'échiquier politique, tout en essayant également de lancer des ponts vers les Jacobins modérés, vers une certaine forme de républicanisme que Joseph aimerait conserver, notamment lorsque le régime se transforme.
Alors, réseau politique, mais aussi réseau culturel.
Oui.
On est étonné de voir qu'autour de Joseph se retrouve... L'exemple le plus parlant est bien sûr Madame de Staël, qui va faire partie de l'entourage proche de Joseph, alors qu'elle est officiellement donc mal vue par Napoléon.
Même persona non grata à la cour, hein, et envoyée à plusieurs reprises à telle distance de Paris, et cette distance va augmenter au fur et à mesure que l'hostilité entre Napoléon et Germaine de Staël augmente. Et donc, chose intéressante, c'est lorsque Germaine de Staël est encore très influente à Paris, c'est Napoléon qui voudrait savoir quelle est sa position vis-à-vis du coup d'État, vis-à-vis du nouveau régime, va envoyer Joseph un peu à la pêche aux informations. Et la réponse que fait Germaine de Staël à cette occasion, à savoir « ne me demandez pas ce que je veux, mais ce que je pense », va tellement plaire à Joseph qu'il va entretenir avec elle une correspondance suivie et essayer de l'amener à, non pas collaborer avec le régime, ce serait trop, mais à essayer de faire passer certaines idées. Et on va voir un échange s'établir très riche et qui va peser d'ailleurs dans le reste de la carrière de Joseph.
Alors Joseph, comme vous venez de le dire, est plutôt partisan d'un régime libéral. Est-ce pour autant qu'il est contre l'Empire ?
Non. Absolument pas. Il est contre la forme de l'Empire en tant que monarchie militaire, je pense. C'est-à-dire avec une armée surpuissante et la politique de conquête de son frère et l'instauration du système fédératif avec les pays alliés, les vassaux. En revanche, la restauration de la monarchie, en soi, il ne la combat pas parce que, déjà, il devient l'héritier de la couronne.
Et voilà, il faut peut-être dire deux mots de ces manigances pour obtenir cette position d'héritier.
Tout à fait. Et Napoléon n'a pas d'enfant jusqu'en 1811. Et Joseph connaît ses chances et va essayer de provoquer la chance à plusieurs reprises. Mentionnons par exemple qu'en 1805, il est le gouvernant effectif de la France, alors que Napoléon est sur les champs de bataille, et qu'il va lui arriver à plusieurs reprises de poser la question « Mais que va-t-il se passer si mon frère connaît un malheur sur un champ de bataille ?» Et à cette question, il va essayer de, on va dire, sensibiliser certaines personnes influentes de la cour, notamment Talleyrand et Fouché. Fouché qui n'apprécie guère, mais avec lequel il est obligé de compter. Et pendant un certain temps, on va dire entre 1800 et 1805, peut-être même 1806, Joseph paraît une alternative crédible au pouvoir de Napoléon. Donc l'Empire, il ne va pas le combattre frontalement, mais il va combattre certaines dérives et il va s'opposer à certaines conceptions du pouvoir personnel.
Vincent Aguélé, il est temps de marquer une courte pause. Nous nous retrouvons dans un instant pour la suite de notre émission. Nous sommes toujours avec Vincent Aguélé, avec lequel nous nous intéressons à Joseph Bonaparte. Nous sommes en 1805, l'Empire est en place. Nous avons vu que Napoléon avait même laissé les affaires à Joseph, étant parti sur les champs de bataille. Est-ce que Joseph y gagne la confiance de Napoléon, qui l'envoie peu de temps après prendre le royaume de Naples? Ou au contraire, Napoléon craint-il que son frère ait pris goût au pouvoir et cherche-t-il à éloigner Joseph?
C'est une bonne question à laquelle il n'est pas aisé de répondre. Parce qu'il faut savoir qu'en 1805, au moment où Napoléon remporte Austerlitz, c'est-à-dire sa plus belle victoire, il est très menacé sur le front intérieur, c'est-à-dire celui des finances. Et à Paris sévit une crise financière d'une ampleur jamais vue, avec les faillites en chaîne de la plupart des banques participant au système de la Banque de France, et que Joseph découvre un peu avec effarement la situation financière en septembre-octobre 1805 et va tout tenter pour pouvoir maintenir l'approvisionnement de la Grande Armée, même en continuant à agrandir le trou et le déficit des finances. Il faut savoir que ce système reposait sur un empilement compliqué de sociétés et de fournisseurs, pour la plupart engagés dans des affaires aux Amériques, et que la défaite de Trafalgar a un peu mis sur la paille. Donc c'est avec ce problème de finances que Joseph doit se débattre pendant plusieurs mois. Et bien que Napoléon le menace à plusieurs reprises de sanctions quant à la manière dont il dirige ses affaires, il va néanmoins, je dirais, gagner pour la première fois ses galons de dirigeant et faire preuve d'un certain courage politique, notamment en prenant la décision de continuer à soutenir certains fournisseurs faillitaires. Alors, au moment où il l'envoie à Naples, c'est à la fois donc la consécration, sachant qu'il va devenir à court terme roi de Naples, mais c'est aussi une manière d'éloigner Joseph, dont les contacts avec certains ambassadeurs ont pu froisser Napoléon. Et toujours cette question récurrente de l'héritage, qui doit hériter de la couronne, on peut-être fait pencher la balance. La façon dont il est envoyé à Naples n'est pas anodine, c'est presque une lettre de cachet. Hein. Il apprend ça au moment où il pense que son frère va le féliciter pour avoir maintenu les affaires à flot. Il apprend qu'il doit partir quasiment dans la soirée pour Naples et prendre la tête du corps expéditionnaire qui stationne là-bas.
Alors il arrive à Naples en février 1806, il va y rester 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir du règne de Joseph à Naples?
Eh bien, qu'il a pu y faire tout ce qu'il aurait aimé faire en Espagne, et qu'il a peut-être été pour la première fois et la dernière fois véritablement souverain absolu, parce qu'il gouverne en totale liberté, enfin la liberté que Napoléon lui laisse évidemment, mais ce sont ses idées pour la première fois qu'il va appliquer. Et j'avais baptisé ça le laboratoire napolitain, parce que le réseau de Joseph là va s'activer de manière un peu foudroyante, et la plupart des personnes qui l'entourent, qui sont un peu bridés en France, parce que Napoléon tient à les laisser un peu à l'écart, vont se révéler d'excellents conseillers, ou moins excellents, à Naples. Et Joseph va rapidement subir aussi l'influence, je dirais, du climat napolitain, en se prenant d'affection pour la population et en essayant de regagner une certaine indépendance vis-à-vis des décisions de son frère. Et il va y parvenir relativement bien, parce que les dossiers qu'il gère sont compliqués, mais il a la main dessus. Et surtout, il commande aux troupes françaises stationnées à Naples, chose qu'il ne peut pas faire en Espagne. À partir de ce moment-là, en tant que commandant en chef des armées françaises et en tant que roi de Naples, il va moderniser, réformer. Il va complètement, par exemple, refondre le système fiscal. Et c'est le début de ce qui va devenir la décennie française à Naples, une période assez brillante et très bouillonnante au niveau des idées.
Pourtant, Napoléon s'avère assez critique vis-à-vis de son frère. Vous citez même une lettre où il le traite de roi fainéant.
Tout à fait.
Pourquoi on n'arrive pas très bien à comprendre? Les réalisations de Joseph ont l'air pourtant de porter leurs fruits.
Oui, parce que Joseph travaille sur le long terme et surtout n'attend qu'une chose, que la paix soit signée entre l'Angleterre et la France, parce que les Anglais le gênent considérablement, établissent un blocus sur le port de Naples, qui est pourtant le poumon économique du royaume. Et donc les réformes que Joseph mène coûtent cher, parce que le corps expéditionnaire français doit être payé sur le trésor français, et non sur le trésor napolitain, comme le pensait Napoléon. Et devant les caisses toujours vides, Napoléon va penser que son frère ne fait rien, ce qui est totalement faux, puisqu'il travaille, il a un désordre du jour extrêmement chargé, et il visite son royaume, il est tout le temps sur les routes, il s'enquiert de beaucoup de détails. Et néanmoins, c'est vrai que les accusations de Napoléon le blessent, d'autant plus qu'il a fort à faire aussi sur le plan militaire. en devant combattre une rébellion très sanglante, très violente, qu'on a oubliée au profit de celle de la guerre d'Espagne et que les Anglais le gênent quotidiennement.
Alors après 2 ans à Naples, Napoléon l'appelle subitement en mai 1808 à Bayonne et pour prendre la couronne d'Espagne. Alors avant d'évoquer cet épisode complexe dans la vie de Joseph, je voudrais que vous nous parliez d'un passage que vous consacrez aux courriers et plus particulièrement à la guerre des courriers, parce que je rappelle donc que votre travail repose essentiellement sur la correspondance entre Joseph et Napoléon et que cette correspondance va subir bien des difficultés au cours de la guerre d'Espagne. Pouvez-vous nous expliquer cette guerre des courriers donc ?
La guerre du courrier ou la guerre des courriers, parce que par courrier il faut entendre aussi les hommes qui risquent leur vie pour transporter dans leur porte-manteau des renseignements extrêmement précis sur l'état des opérations militaires et qui donc sont des cibles de choix sur le terrain, débute, je dirais même, déjà dans le camp français. Puisqu'on a le cas avéré de lettres de Joseph ouvertes par Napoléon, de lettres de Joseph arrêtées à la frontière des Pyrénées et qui atterrissent sur le cabinet noir de Savary. On a aussi le cas inverse où Joseph ouvre la correspondance de ses aides de camp, devenant un peu paranoïaque aussi, étant gagné un peu une sorte d'espionnite galopante. Et puis après, évidemment, la guerre du courrier, c'est une guerre de renseignement, oppose Anglais et Français dans la péninsule de façon extrêmement violente et je dirais même aussi ingénieuse, parce que les courriers sont souvent chiffrés, il va falloir trouver les moyens de casser les codes, il va falloir aussi offrir des primes pour ceux qui rapporteront une lettre, voire lorsque on arrive à assassiner une estafette sur le chemin, l'ensemble de son courrier, et essayer de reconstituer les renseignements pris. C'est un aspect important aussi que l'on néglige parfois, j'irais, dans l'historiographie, et peut-être aussi un des aspects de la défaite française en Espagne.
Oui, et aussi vous montrer comme le courrier intercepté par les Anglais a été utilisé d'une manière très intéressante à des fins de propagande et à quelque part intoxiquer le camp français.
Oui, on a des cas même, je dirais, presque hallucinants de fausses lettres qui ont été envoyées à la cour d'Espagne, par exemple des exemplaires d'abdication en blanc pour Joseph, sachant qu'il se savait menacé. On a aussi des manœuvres de la part de Joseph destinées à intoxiquer le camp ennemi. Il va essayer de gagner la confiance de certains rebelles en leur envoyant des lettres avec un contenu anodin, mais qui peut passer pour important, histoire de semer la zizanie parmi la rébellion. On a d'autres cas intéressants qui viennent aussi du fait parce que la police française opère beaucoup sur le territoire espagnol. Et donc, toute cette guerre de renseignement est l'un des aspects principaux, étant donné que la guerre sur le terrain, ce ne sont pas de grandes batailles, mais des escarmouches pour la plupart du temps.
Alors, nous allons en venir à cette guerre sur le terrain et à la guerre espagnole, mais nous allons marquer une courte pause. Nous nous retrouvons juste après. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Nous sommes toujours en compagnie de Vincent Aiguélé, auteur de Napoléon et Joseph Bonaparte, Le pouvoir et l'ambition chez Talendier. Nous arrivons donc à l'évocation d'un épisode difficile dans la vie de Joseph Bonaparte, qui d'ailleurs marqua sa rupture avec Napoléon. C'est le règne espagnol. Et tout d'abord, Vincent Aiguélé, pourquoi Napoléon a-t-il choisi Joseph pour le trône d'Espagne ?
J'aurais tendance à dire parce qu'il n'y avait personne d'autre pour réclamer le poste, que Murat était malade et avait considérablement échoué avec les épisodes des 2 et 3 mai, qui n'avait peut-être pas l'envergure politique que Napoléon prêtait à son frère Joseph, et parce que Naples, à tout point de vue, ressemble un peu à l'Espagne. C'est une sorte d'Espagne miniature que Joseph a gouvernée avec sa guérilla, avec sa noblesse difficile, avec son climat méditerranéen. Et donc, Joseph va se trouver en face de plusieurs cas de figure intéressants. Napoléon va lui proposer d'ailleurs la couronne d'Espagne en lui disant « Vous serez beaucoup plus proche de Paris et donc de moi-même qu'à Naples ». Et c'est aussi d'une certaine manière une promotion parce qu'il lui dit que son royaume va augmenter. Il faut savoir aussi que l'Espagne à cette époque, ce n'est pas que l'Espagne européenne, mais les colonies américaines. Et donc la promesse d'un budget équilibré, par exemple, la promesse d'une cour plus brillante, d'une vie intellectuelle plus brillante. Mais Joseph, lorsqu'il part de Naples, n'a aucune illusion sur ce qu'il va trouver. D'ailleurs, c'était là aussi finalement l'intérêt de retrouver les documents inédits, sa correspondance de l'époque, parce qu'on voit que lorsqu'il part pour l'Espagne, il écrit à son principal ministre resté à Naples que ce qu'il va trouver là-bas, ça va être un peu un pays en guerre et qu'il va devoir tout recommencer du début et gagner la confiance sera l'une de ses principales tâches. Et il va échouer. Il va échouer parce qu'il va s'estimer un peu trahi par les militaires français sur le terrain et par son frère en dernier lieu, Napoléon refusant de lui confier le commandement suprême des armées françaises en Espagne.
Oui, alors on a l'impression, et en Espagne c'est le cas, qu'un des soucis de Joseph tout au long de sa vie, c'est qu'il a toujours eu besoin de se faire aimer. On le sent toujours à la recherche, de, que ce soit de son peuple, mais de son entourage. C'est un fait assez marquant dans le cas de l'Espagne, parce qu'il va être accusé par Napoléon de prendre trop parti pour l'Espagne.
Presque de trahison, on peut dire, oui.
Presque de trahison. Alors on va peut-être revenir sur un épisode qui souligne quelque part l'aveuglement de l'empereur. Et la dureté de Napoléon vis-à-vis de Joseph, c'est la bataille de Talavera. On voit aussi le rôle que vont y jouer les Anglais. Je rappelle peut-être le contexte. Joseph donc décide de bloquer en fait les Anglais qui viennent de reprendre le Portugal. Il veut leur empêcher de marcher sur Madrid. Il décide donc de lancer l'expédition près de Talavera, et ce, sans l'accord de Napoléon. Il se trouve que l'affrontement va tourner mal pour les Français, qui, dans un premier temps, vont subir une défaite et qui, dans un deuxième temps, Soult, venu du Sud, va réussir à les mettre en déroute. Napoléon apprend tout ça. Et là, le jeu joué par les Anglais est assez pervers. Et tout ça va influencer beaucoup les rapports entre les deux frères.
Alors oui, c'est-à-dire que Napoléon va refuser de croire le rapport de son frère qui lui dit finalement, malgré tout, ça a été une victoire. Et victoire militaire sur le terrain, il y a eu lieu. C'est vrai que Talavera n'a pas été la bataille la plus glorieuse, mais finalement, la personne que Joseph affronte, alors qu'il n'est pas militaire, c'est Wellington. Il a quand même Wellington en face de lui, et Wellington que Napoléon ne battra pas non plus. Et Talavera, en fait, n'est pas une défaite dans le sens où les Anglais ont terrassé l'armée française. Non, en fait, à un moment donné, Joseph s'est rendu compte que il faisait des erreurs en envoyant ses troupes sur le terrain et se faire décimer par les Anglais retranchés. Donc il a préféré se retirer progressivement, revenir couvrir Madrid et attendre que Soult lance son offensive par le sud. C'est un succès puisque les Anglais abandonnent le terrain, refluent sur Lisbonne et abandonnent aussi leurs hôpitaux, la plupart de leur cavalerie, la majeure partie de leurs canons. Et Wellington, qui n'est peut-être pas, qui là, est dans une mauvaise position, va néanmoins envoyer un rapport assez positif sur la campagne à Londres. Et c'est ce rapport que Napoléon va croire et accuser son frère de tromperie, notamment en délivrant un ordre du jour victorieux. Il faut savoir aussi que le moral des Français en Espagne n'est pas toujours excellent, et qu'à cette époque-là, il y a aussi la campagne d'Autriche qui a repris avec Wagram, et que beaucoup aimeraient être en Autriche aux côtés de Napoléon plutôt que de se battre sur des terrains difficiles au Portugal et en Espagne. Alors que Joseph fait preuve d'élémentaire psychologie en disant à ses soldats qu'ils se sont bien battus, c'est vrai, dans des conditions particulièrement difficiles, Napoléon va accuser son frère, le ministre de la guerre aussi français, Clark, et ministère tout entier de Joseph, de le tromper et de cacher la vérité sur ce qu'il s'est passé. Un exemple tout simple, il va accuser Joseph d'avoir perdu des aigles sur le terrain. Or, il n'y avait pas d'aigles, c'est-à-dire les emblèmes militaires au moment de l'engagement de Talavera. Et bien qu'il le sache, à mon avis, il le sait, il va quand même l'accuser. Il va demander à ce que l'on traduise en cours militaire les responsables de l'artillerie, alors que trois canons ont été perdus, etc., etc., etc. Joseph comprend qu'il n'arrivera pas à faire plier son frère dessus et finalement renonce à établir une correspondance suivie avec lui à ce moment-là et va entretenir de plus en plus de liens diffus par ambassadeurs interposés. Et ce défaut de communication va encore aggraver les choses.
Oui, et finalement, est-ce qu'on ne peut pas se demander si l'erreur de Napoléon dans l'affaire espagnole n'a pas été de prendre Joseph à l'âge légère ?
Oui, ce qui est étonnant, puisqu'il lui a confié les affaires, le trône. Je crois que ce qui a déstabilisé Napoléon, c'est la première retraite de Madrid en juillet 1808, suite à l'affaire de Bailén, dont Joseph n'est pas responsable, par ailleurs, puisqu'il était à peine arrivé à Bayonne et à Madrid lorsque Bailén s'est produit. Ayant dû retraiter, parce que n'ayant plus de moyens de pouvoir résister au retour des Espagnols dans sa capitale, Joseph va devoir établir son quartier général dans le nord de l'Espagne pendant quelques mois et attendre que des renforts lui parviennent. Et peut-être que Napoléon se trouvait déçu de son frère à ce moment-là, parce que Joseph réclame à corps et à cris de revenir à Naples, qu'il aime, dont il parle la langue, dont il s'est fait apprécier d'une partie des élites, alors qu'en Espagne, tout lui échappe. Et les récriminations de son frère, qui lui explique aussi clairement que l'Espagne est en grande partie déjà perdue, vont agacer Napoléon et le conduire effectivement à s'éloigner de lui.
Alors après 5 ans difficiles en Espagne, Joseph est obligé de quitter son royaume, Napoléon ayant rappelé une partie de ses troupes pour se concentrer sur le front Est. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on voit donc Joseph revenir en France et par l'intermédiaire de sa femme Julie, on n'en a pas du tout parlé et pourtant on découvre beaucoup de choses sur Julie dans votre ouvrage, il va se réconcilier avec Napoléon et dès la campagne de France, il est à nouveau au premier plan sur la scène politique.
Tout à fait, mais plus dans les mêmes conditions physiques. L'Espagne a quand même beaucoup altéré sa forme, il est fatigué. Et la tâche qui l'attend, c'est-à-dire participer à l'effort de propagande, à l'effort de concentration des moyens sur Paris, pendant que Napoléon tente de contenir 3 armées coalisées contre lui, va un peu faire vaciller sa foi en une victoire possible. Et on le voit de février à avril 1814, appelé à une paix à l'amiable avec les puissances coalisées. Il va tenter de convaincre son frère de renoncer à la guerre et de revenir aux frontières de la Révolution, c'est-à-dire celle de 1792. Là aussi, Napoléon s'obstine beaucoup, mais on ne peut pas non plus penser que Joseph a des arrière-pensées extrêmement précises sur le rôle qu'il compte jouer à l'avenir. Sachant que Napoléon est décrédibilisé sur la scène internationale, que Marie-Louise ne pèse pas lourd dans la balance politique et que le roi de Rome est encore très jeune, c'est lui qui va gouverner la France. Il le pense. À mon avis, il ne s'est jamais senti aussi près du pouvoir en France à ce moment-là. Il pense qu'il va obtenir une régence et ses réseaux vont être très utiles pour l'effectuer. C'est-à-dire que de ces négociations dont on a parlé tout à l'heure à Amiens, à Lunéville, il a gardé d'excellents contacts. Il a gardé des contacts avec les Autrichiens, il a gardé des contacts avec les Anglais. Parce que paradoxalement, il est assez anglophile. On le voit notamment lorsqu'il part en exil, il ira en Angleterre à partir de 1830. Et évidemment, les catastrophes allant de pair, enfin, ne pouvant plus être évitées, Joseph va prendre la décision qu'il ne fallait pas prendre. Il va demander à la cour d'évacuer Paris.
La cour et surtout Marie-Louise et le roi de Rome. Et ce, contre les ordres laissés par Napoléon.
Oui, alors en même temps, Napoléon lui avait donné les 2 ordres. On le voit très bien lors de la fameuse séance du Conseil où il finit par demander l'évacuation. C'est qu'il s'appuie sur une lettre de Napoléon lui demandant de ne surtout pas laisser le roi de Rome tomber vivant aux mains des coalisés. Alors pour lui, sachant que Paris ne peut être défendu, il décide d'éviter effectivement un sort pénible à Paris, de se retrancher sur Orléans. Mais le problème, c'est qu'il perd contact avec la réalité parisienne. Talleyrand est resté sur place. Et à partir de ce moment-là, le nouveau gouvernement de transition se met en place. Et Joseph se retrouve le dupe de lui-même, tandis que Napoléon abdique une première fois à Fontainebleau.
Alors pour terminer, je voudrais que nous évoquions quand même un point qui est montré pour la première fois dans votre ouvrage. C'est la place des dramaturges français dans la pensée des 2 frères Bonaparte. Et en particulier la place donc de Corneille dans la pensée politique de Joseph. Et d'ailleurs, on parlait à l'instant du roi de Rome et les échanges de lettres entre Joseph et Napoléon citent Corneille.
Oui, c'est-à-dire que dans le destin de la famille Bonaparte, Joseph voit beaucoup de points communs avec certaines tragédies et se plaît à les citer abondamment. Alors c'est un grand amateur de théâtre. Et il connaît par cœur un certain nombre de tragédies, et particulièrement celle de Corneille. On peut s'interroger, pourquoi Corneille, pourquoi pas Racine ? Il se trouve que l'esprit de Corneille, l'esprit des personnages de Corneille, qui font parfois un peu face avec fatalisme à leur destin, plaît à Joseph. Parce que Joseph, d'ailleurs, l'écrit à un moment à Julie, tout ce qu'il se passe amènera une catastrophe, je te le dis, je te l'écris, et garde cette lettre, elle sera prophétique. Et on peut se demander jusqu'à quel point l'imaginaire théâtral a pu influer sur les décisions de Joseph. Certainement pas au moment où de prendre une décision, par exemple, sur le tel ou tel budget quand il règne à Naples. Mais lorsqu'il revient plus tard en exil sur ces années où il a quand même été un personnage important de la vie politique française, il ne peut s'empêcher d'établir là des correspondances entre telle ou telle tragédie et le cas qui lui semble le plus à même de faire école étant l'affaire du duc d'Enghien. Donc il va assimiler à la tragédie de Pompée celle du duc d'Enghien et son exécution. Donc je pensais qu'il était important de développer ce passage de Joseph, le Joseph cultivé et aussi un peu fataliste, tandis que Napoléon, qui était aussi un grand amateur de Corneille, voit parfois d'une manière différente, interprète différemment. On a deux interprétations qui s'opposent et qui finalement se complètent à la fin, à la toute fin.
Merci infiniment Vincent Aguélé. J'espère qu'à l'issue de cette émission, l'image d'un Joseph faible et sans ressources sera détrônée par celle d'un homme ambigu parfois, mais charmeur et cultivé, et fasciné avant tout par le pouvoir. Je conseille vivement à nos auditeurs la lecture de votre ouvrage « Napoléon et Joseph Bonaparte, le pouvoir et l'ambition » aux éditions Talendier. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Au revoir.
Merci à vous.